Bonjour Noémie et bienvenue
Bonjour Fabrice.
dans ce petit temps d'échange ensemble qui va venir compléter les différents points de vue de cette mini-série autour du design fiction, du travail de vision d'entreprise, du travail autour de la raison d'être et même en ouvrant plus large, travail autour des imaginaires, travail autour du rêve, travail autour de la pensée future. Enfin voilà, il y a plein de termes qui vont dans cette orientation-là. Avant que je te pose plein de questions pour pouvoir capter un petit peu toi, justement, ton approche par rapport à ces sujets, tes expériences ou des cas d'exemple, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'informations sur toi, sur ton contexte et puis plus précisément autour de ces sujets, comment est-ce que tu les abordes de manière globale?
Donc effectivement, moi, ça va faire à peu près 5 ans maintenant que je travaille sur ce sujet avec aussi un cheminement que j'ai eu depuis. Et peut-être que je peux te dire là où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vois vraiment, et c'est pour ça que ça m'intéresse l'introduction aussi que tu en fais, c'est je vois vraiment un lien très fort, en fait, entre la prospective et la stratégie. Et de plus en plus, que ce soit le design fiction, les narratifs, la manière dont on se raconte l'histoire et la culture qui l'environne, tout ça, pour moi, c'est des sujets extrêmement importants dans l'époque qu'on traverse pour définir une vision. Et donc, de plus en plus, finalement, la prospective, le design fiction, la capacité à se projeter, c'est de la prospective, mais c'est aussi du changement de perspective. Et à mon sens, ça devient, et c'est ça qui m'intéresse énormément, ça devient un vrai levier d'action et une manière de changer de manière d'envisager le futur. Donc moi, c'est vraiment ce qui me motive et ce qui m'anime dans le moment qu'on traverse là sur la prospective qui est peut-être un peu qui connaît un peu, peut-être son âge d'or là en ce moment où voilà c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et c'est pas anodin. En tout cas, moi, c'est vraiment c'est cette approche-là que j'essaie de porter au quotidien et dans mes accompagnements.
Ok. Donc toi concrètement, tu fonctionnes comment? Tu animes du coup avec des directions d'entreprise, des ateliers de prospective au départ principalement, ou est-ce que c'est d'autres? Tu nous fais un petit peu ton cheminement qui t'a amené jusque-là où tu en es aujourd'hui du coup?
Du coup, alors moi, je me définis sur vraiment deux aspects. J'essaie vraiment de développer un savoir-faire en décryptage. Donc pour moi, il y a cette partie analytique qui est extrêmement importante. Et ma zone d'observation, c'est vraiment ce qui est en train de changer dans les modes de vie. Donc qu'est-ce qui est en train de changer dans notre manière d'habiter, de se déplacer, de consommer, de travailler? Parce qu'à mon avis, c'est une matrice centrale et qui permet d'amener une nouvelle manière en fait d'envisager son marché par la société. Et ça, pour moi, je sens vraiment un levier qui est très fort là-dessus en termes de nouvelles perspectives. Donc cette partie décryptage, du coup, elle se formalise parfois avec des cahiers de tendance, avec des cadrages prospectifs. Donc voilà, une approche assez analytique du sujet. Et puis il y a une partie aussi qui est plus effectivement fiction, créativité, mise en récit, qui du coup trouve plutôt sa place effectivement dans des ateliers. Et donc là, avec des enjeux peut-être qui sont différents d'un livrable plus analytique, où là on est plus dans l'idée de d'identifier des zones de consensus dans la perception et dans la vision du futur, et dans l'idée d'aligner vers ce qui semble être une direction partagée, une manière d'envisager le futur partagé.
Ok.
Et donc tout ça, moi je l'écris aussi peut-être dans une newsletter. Du coup, c'est vraiment pour moi c'est vraiment une pratique très hebdomadaire en fait d'essayer aussi de capter cette ère du temps et de le retranscrire aussi en fiction parce que c'est pas un exercice qui est facile en fait. Enfin, je trouve à mon sens et parce que ça nécessite à la fois d'arriver un point avec un point de vue nouveau sur le monde et sa direction. Et une capacité aussi à le raconter. Et donc, pour moi, il y a tout un processus d'apprentissage aussi autour de ça. Et donc, voilà, le fait de mettre en fiction une observation du présent, de l'émergence du présent et de son potentiel futur, c'est aussi une manière pour moi de transmettre un peu ce que j'observe.
Ok. J'aime bien la double entrée que tu présentes, parce que ça me paraît être un peu comme dans les autres podcasts, on en parlait, mais un peu le côté cerveau gauche, cerveau droit, d'une certaine manière. Il va y avoir, dans la balance, par exemple, actuellement, est-ce que tu as plus de projets qui sont sur le côté prospective ou plus sur le côté ouverture, futur, fiction?
En fait, globalement, tous les projets que j'accompagne ont les deux composantes. Mais moi, de toute manière, dans la manière de l'aborder, en fait, ça va dépendre du livrable aussi. Si c'est une intention qui est plus, on va dire, stratégique et d'ouvrir des scénarios, bon, voilà, on va plutôt se situer dans un livrable qui est plutôt écrit. Mais moi, j'aime bien y mettre aussi un peu de fiction dedans parce que du coup, ça permet aussi de se projeter. Mais du coup, enfin moi, en tout cas, dans ma méthode et dans ma manière de travailler, je dirais que c'est entre 70 et 80% d'analyse et 20 à 30% de créativité. En tout cas, ça, c'est vraiment le ratio que j'essaie de mettre dans mes accompagnements parce que c'est ce qui me semble important aussi en termes de qualité de livrable. C'est le point de vue plus que la création. En tout cas, c'est ma manière d'aborder la valeur que j'essaie d'amener, quoi.
Tu parlais du livrable et du coup, les attendus en sortie, en général, avant que tu rentres dans la discussion avec eux pour peut-être les redéfinir ou des choses comme ça. Vraiment, qu'est-ce qu'on te demande en fait quand on vient te chercher à l'origine?
Ben ça, c'est un truc qui est intéressant parce que tu vois, typiquement par rapport à ce que je te disais au tout début, en fait, il y a vraiment eu un glissement, il y a une maturité qui est en train de s'opérer sur les types de demandes. Quand j'ai commencé, on va dire que c'était un peu, on a du mal à comprendre ce qui se passe, aidez-nous à mettre les choses un peu plus au clair. Voilà, il n'y avait pas forcément d'intention stratégique, c'était plus une idée d'explorer et de se poser autour de ce qui est en train de changer. Et de plus en plus, en fait, les sujets qui m'arrivent sont des sujets avec une question stratégique, presque une question de design, en fait. Comment pourrions-nous sur des sujets qui sont très proches, en fait, du présent. Si je prends un exemple assez récent, j'ai travaillé avec un acteur des transports publics sur les chauffeurs de bus et donc la pénurie de chauffeurs de bus. Donc, ça, c'est un sujet qui est très, très chaud. Mais ils se sont dit le sujet est finalement plus structurel que conjoncturel. Et donc, il appelle, en fait, à un raisonnement plus long terme sur le rapport au travail, sur la manière dont on propose la valeur employée, en fait, à ces métiers-là. Et donc, l'idée, en fait, est de sortir aussi un peu d'une projection trop court terme pour se dire, en fait, on s'inscrit dans des changements de société qui sont significatifs et à horizon 5 ou 10 ans, parce que c'est des choses qui mettent du temps à prendre forme. Donc, dès à présent, quand on réfléchit sur des sujets comme ça, cette perspective et cette capacité à s'autoriser, en tout cas à penser loin, elle devient importante et elle permet, et c'est ça qui est aussi que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois, on réatterrit sur des leviers d'expérimentation. Donc, cet aller-retour, en fait, entre une problématique qui est actuelle, une projection de ce que ça pourrait donner et finalement quels sont les grands scénarios qu'on peut anticiper et à quoi ça pourrait ressembler concrètement, à quoi pourrait ressembler votre concurrent, comment pourrait se structurer le marché. Et finalement, de se dire, nous là-dedans, qu'est-ce qu'on a envie de faire et dans quelle direction on a envie d'aller, de quoi est-ce qu'on est convaincu aussi, parce qu'in fine, c'est un peu comme dans tous les exercices de vision et de stratégie, grande part de conviction. Et cette conviction, je pense que surtout sur les futurs, il faut qu'elle soit partagée et alignée. Et donc, c'est aussi l'objet, finalement, de cette démarche, quelque part. Donc, c'est des sujets qui de plus en plus arrivent, pour moi, dans le champ de la stratégie et dans la résolution de problèmes qui sont compliqués, qui sont complexes, qui sont très liés, en fait, à des changements d'aspiration, à des changements de société qu'on a du mal à saisir. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, en fait, dans la maturité qui est en train de s'opérer dans les demandes.
Et sur la manière de traiter ces sujets, est-ce qu'eux, ils attendent de toi, en tant qu'expert externe, faire toute ta recherche, d'aller discuter avec les différentes parties prenantes et puis de leur remettre justement une présentation un peu de voilà les scénarios possibles, les choses qui seraient attendues. Ou est-ce que... Et toi, du coup, est-ce que tu fonctionnes de cette manière? ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus coopératif ou participatif, où tu les amènes, eux, à rentrer dans cette réflexion, dans cette projection, dans ces étapes de recherche? Comment tu procèdes?
Moi, j'ai plutôt pour habitude de travailler plutôt en chambre, en fait, sur la partie analytique. En général, c'est plutôt moi, ce qui m'intéresse vraiment, en fait, et je pense que ce qui est le vrai livrable de ce genre de démarche, c'est surtout la conversation qui a lieu à partir la conversation stratégique qui a lieu à partir des projections. Plus que le fait, en fait, d'identifier ensemble, pour moi, vraiment, l'intérêt et le point d'atterrissage, c'est d'identifier ces zones de consensus, là où vous êtes d'accord. Et donc, pour ça, en fait, moi, mon travail, c'est d'ouvrir les possibles. Et on va dire que j'ai plutôt un bon œil pour ça. Donc, faites-moi confiance là-dessus. Je pense que je sais assez bien faire ça. En revanche, savoir ce que vous avez envie de faire, où est-ce qu'il faut aller, ça, c'est vous qui le savez. Et donc, dans ce champ des possibles, finalement, comment est-ce qu'on peut ouvrir une conversation là-dessus? Et c'est là où, pour moi, les outils de fiction et design fiction sont hyper intéressants. C'est que plutôt que de parler de scénario, on va parler d'artefacts qui sont concrets dans le quotidien et dans l'univers de travail des gens et qui permettent d'enclencher ces conversations de manière très pragmatique et de manière très enclenchée, en fait, sur l'action. Pour se dire finalement, bah, est-ce que ça en prendrait, est-ce que ça en prendrait pas, comment est-ce que nous on le ferait à notre sauce, et finalement d'arriver vers cet horizon. Moi, j'imagine un peu comme une île au milieu de la mer, qui est un peu cet horizon de stabilité où on se dit, bah, en fait, c'est plutôt vers ça qu'on a envie de se diriger. Et je pense que si, enfin, en tout cas, moi, mon intention, c'est d'amener les gens à visualiser ça ensemble. Et je pense que ça a beaucoup plus de valeur que le fait de travailler ensemble sur des bons scénarios. Parce qu'en fait, les scénarios, il y en a une infinité. Et voilà, on connaît le cône des futurs où, voilà, c'est un exercice intellectuel, c'est un cadre intellectuel. Mais au-delà du cadre intellectuel, comment est-ce qu'on arrive à tous entrevoir ce petit bout d'île où est-ce qu'on a envie d'aller? Pour moi, c'est ça le vrai besoin aujourd'hui. Et qui a vraiment de la valeur dans ses démarches.
Est-ce que tu commences à introduire l'exemple des transports, mais peut-être que c'est pas encore allé jusqu'à ce stade où ils ont détecté leur petit bout d'île, mais est-ce que tu auras un exemple pour appuyer ce qu'on vient de dire avec du concret? Parce que je pense qu'en général, c'est ce qui parle le mieux.
Ouais. Alors après, c'est un peu difficile parce que il y a beaucoup de sujets qui sont plutôt confidentiels
Ouais, bien sûr.
dans l'idée où c'est la stratégie. Mais je pense que si en fait, pour moi, il y a deux éléments qui arrivent souvent, en fait, dans les démarches. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut abandonner? Finalement, qu'est-ce qu'on fait encore, mais qui est de l'ordre du monde du passé? Et ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a plein de schémas dans lesquels on est aujourd'hui et en fait, qui sont complètement inopérants dans notre monde. Donc ça, c'est le premier point, je pense, et typiquement sur des sujets de RH, il y a, enfin, à mon avis, il y a des cadres qui ont besoin d'être réinventés. Et donc, finalement, c'est se mettre tous d'accord, en fait, pour ouvrir cette conversation qui est très difficile à avoir dans un autre cadre que celui du futur et de la fiction. Et en fait, ça permet de s'autoriser à dire ça, en fait. Et ça, pour moi, c'est un premier élément. Qu'est-ce qu'on et souvent, moi, j'ai un petit exercice qui s'appelle le musée du monde d'avant, où en fait on essaie d'imaginer, en fait, en 2030, et de se dire, bah, en fait, qu'est-ce qu'on aura arrêté, parce que ça correspondra plus au monde dans lequel on sera en 2030. En réalité, on se rend souvent compte que c'est beaucoup plus proche que 2030, l'échéance de ces cadres, ces réflexions. Il y en a un, par exemple, je pense qui est assez c'est un schéma que je retrouve assez souvent, c'est finalement la conception de la standardisation, surtout dans le monde du travail, versus le fait de commencer à segmenter et à proposer des expériences assez personnalisées et peut-être plus fines en fonction des différents publics qu'on veut cibler. Ça, c'est vraiment, c'est une manière de faire qui est héritée des 50 dernières années et qui, on le voit, est en train un peu de se déconstruire. Donc ça, pour moi, c'est ce genre de prise de conscience. Et puis après, c'est l'horizon où on veut aller. Et là, souvent, c'est peut-être des partis pris ou des convictions qui sont un peu plus fortes sur des changements de modèle, sur le fait de se dire aussi qu'est-ce qui nous enthousiasme. Donc, par exemple, je travaille beaucoup sur les fiches de poste prospectives. Mmh. Et ça, c'est un très bon outil, en fait, pour se dire, bah, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire demain dans cette boîte? Comment est-ce que je vais trouver ma place dans la nouvelle organisation? Ce sera quoi les objectifs qu'on aura, les missions? Et finalement, en proposant des fiches de poste qui sont complètement déconstructibles, en fait, on arrive en fait à se dire, bah, moi, personnellement, je me projette plutôt dans cette direction-là et j'ai envie de contribuer à ce grand objectif. Et donc, de sortir, en fait, par les fiches de poste et par les envies de chacun et la capacité à se projeter dans son propre poste, de se dire, bah, en fait, finalement, peut-être que notre objectif commun demain, ce serait, par exemple, j'ai travaillé sur le futur du marketing avec Expansions. C'est intéressant de voir comment ils sont en train de faire une bascule entre finalement la notion de marketing dans un monde de croissance volumique. Ils sont en train de se dire, bah, finalement, nous, on a plus envie de ce modèle-là. On veut passer dans un modèle d'entreprise post-croissance. Et donc, finalement, le marketing dans cet univers-là, finalement, on doit se reconnecter à l'utilité. C'est ça notre valeur, c'est ça notre objectif. Et donc, comment est-ce qu'on va redéployer en fait le métier autour de cette fonction-là?
Ok, j'entends le. Tu parlais du fait que ça fonctionne bien pour la fiche de poste. Je trouve que ça, c'est intéressant parce que c'est un peu ce que tu disais avant sur le côté artefact plutôt que de proposer des grands scénarios. Qui souvent sont des fois un peu trop macro ou un peu détachés du quotidien métier et donc la projection elle est assez difficile et puis ça peut ouvrir des débats qui sont un peu trop flottants. Bah, du coup toi t'essaies toujours de modéliser en fait ton étude du futur ou de la prospective dans des éléments qui sont très concrets comme la fiche de poste ou des fois il y a des objets du futur, des choses comme ça qui permet derrière d'arriver à ce que toi tu disais comme étant le point vraiment important, le moment le plus utile, c'est quand il y a les réactions par rapport à tout ça. Mais ouais, je trouve ça intéressant parce que ça complète beaucoup avec d'autres approches, dont une que j'essaye de déployer de temps en temps. Mais en effet, je me rends compte que c'est assez complexe. C'est quand justement tu essayes de créer un cadre pour que ce soit les personnes de l'entreprise ou de l'institution qui elles-mêmes fassent le travail de prospective ou fassent le travail d'imaginaire. Et là, je ne sais pas si toi, tu le fais de temps en temps, ça, peut-être les 30%, comme tu dis, de la partie créative. Mais je vois toujours, justement, les frictions qu'il y a dans ce travail. Parce que les personnes sont dans des prédispositions du quotidien. Donc, le cerveau n'est pas dans cette pensée future et dans cette ouverture. Et donc, du coup, il y a besoin d'avoir énormément de travail en amont pour pouvoir faire ça. Et j'avais aussi un cas où, ça rejoint ce que tu disais un peu avant, c'était une personne qui était passée par la Convention des entreprises pour le climat et qui, du coup, a eu de la prospective scientifique par rapport à toutes les urgences et par rapport à quoi pourrait ressembler notre monde dans 10 ans si jamais on ne réagit pas. Donc, ça lui a figé un petit peu un imaginaire qui est très, très contraint et pas forcément désirable. Et du coup, elle me répondait, voilà ce que ça va être. Et on va devoir s'adapter par rapport à ça. Et je lui disais, oui, ok, prenons ça, laissons-le dans une boîte un moment et puis essayons de faire un travail en à côté qui serait un travail d'imaginaire pur et d'ouverture. Et avec une bonne préparation, elle a réussi à s'ouvrir et à poser un récit, à le partager en vulnérabilité, parce que c'était ce qu'on cherchait aussi, quoi qu'il y ait deux personnes qui puissent ouvrir au groupe pour que le groupe, d'ailleurs, puisse s'ouvrir aussi sur ce type d'exercice. Mais ça a demandé limite plus de préparation que le temps de l'atelier. Et en effet, ça questionne toujours sur... c'est des exercices différents, en fait. On parle de la même chose, mais en fait, c'est différent. C'est d'un côté, on va faire un travail en amont qui va créer les conditions et les objets pour qu'il puisse y avoir les discussions, en faisant confiance au fait que la personne qui a proposé ça, elle ne l'a pas fait de manière complètement détachée de toute rationalité, parce que sinon, ça serait vraiment juste discuter de rêve sur du rêve. Et en même temps, à côté, on peut aussi faire d'autres types d'exercices. Comment toi, tu vis cette autre partie, si tu essaies de les amener de temps en temps, à comment tu les prépares à pouvoir s'ouvrir justement sur des choses qui sont... complètement imaginaire et à faire tout le processus eux-mêmes sans se reposer sur ce que toi, tu as préparé en amont.
Alors moi, ça, je le fais très peu. Et pareil, ça a été un cheminement parce que je pense qu'effectivement, ça demande des aptitudes qui ne sont pas mes points forts. Mais je pense que, enfin, comme je fais souvent mes accompagnements seuls, j'essaie aussi de maximiser, on va dire, ce que je peux faire. Et je pense qu'il y a des gens qui le font très, très bien. Je pense à Futurs Proches. Il y a des gens et des méthodes qui amènent, je pense, des contextes propices. Puis je pense qu'il y a des participants aussi qui sont plus ou moins appétants. Je pense qu'il y a aussi la dimension de est-ce qu'on est volontaire ou pas, est-ce qu'on est habitué à ce genre d'exercice qui joue beaucoup. Moi, je trouve que c'est extrêmement difficile de demander à des gens qui sont effectivement dans l'opérationnel et qui sont dans le show de en 2 heures switcher complètement et adopter une posture de penser le monde à 10 ans, enfin, je veux dire, c'est hyper difficile. Et moi, si on me demandait l'inverse, j'aurais probablement aussi beaucoup de mal. Donc, moi, j'essaie de créer, on va dire, les conditions qui permettent d'arriver à cette conversation qui est vraiment ce que j'ai envie d'avoir plutôt que cette partie de création. Et on va dire que c'est pour d'autres publics. Et je pense que c'est, enfin, parce que moi, mon enjeu, c'est vraiment de me dire comment faire en sorte que le futur rentre dans la conversation stratégique. Parce que je pense que, enfin, en tout cas pour moi, c'est ça l'enjeu, et c'est vraiment là-dessus que j'essaie de me focaliser. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres enjeux qui sont comment est-ce qu'on forme les gens, comment est-ce qu'on les équipe d'outils. Mais enfin voilà, moi je me sens peut-être moins à ma place sur cette partie-là.
Non, puis de toute manière, c'est plutôt et que où. Et là où je vois la complémentarité, c'est quand j'ai des discussions avec les personnes qui essayent de faire réfléchir, par exemple, des codir, de leur faire faire un processus, le propos, c'est de se dire que s'ils ne le font pas, s'ils n'activent pas ce mode de pensée, alors dans le quotidien, en fait, ils ne le feront pas. Et donc, du coup, le cerveau restera toujours sur du day-to-day job, du court-termisme, enfin, tous ces sujets-là. Ce que je trouve intéressant, et en même temps, ce que j'entends de ton approche à toi, c'est déjà peut-être, en effet, si il n'y a pas la discussion sur le futur, il faut déjà au moins qu'elle existe, alors leur faciliter déjà l'accès à ça en disant « Ok, donc là, moi, j'ai l'expertise de vous amener en fait des éléments du futur sur lesquels vous allez pouvoir en toute sécurité discuter, échanger, et je vais avoir la responsabilité aussi de capter, d'animer cet échange pour que vous puissiez en faire des éléments stratégiques et des vrais éléments de travail et d'orientation d'entreprise. » Et puis peut-être que à force de faire ça, au bout d'un moment, ils auront une appétence culturelle limite qui aura augmenté sur le sujet du futur, et du coup, ils seront capables de rentrer dans des démarches où ils vont le faire, où ils vont le faire entre eux. Tu vois un peu cette complémentarité là aussi, ou?
Mais oui, je suis d'accord avec ta manière de décrypter le truc. Je pense qu'effectivement, et après, moi, c'est vrai que mon point de vue, c'est aussi qu'on est sur une approche qui, à mon avis, doit démontrer sa valeur assez vite, parce que on peut toujours avoir l'impression que c'est un investissement dans quelque chose d'un peu vaporeux. Donc, enfin, pour moi, c'est aussi cette idée de d'être solide aussi sur ce à quoi on amène et ce qu'on amène et comment et le plus vite possible, en fait, parce que malheureusement, le marché, il est quand même très orienté sur plutôt des grosses entreprises. Et moi, j'aimerais bien quand même que ce soit des démarches qui puissent aussi être accessibles aussi à d'autres publics. Je pense qu'il y a plein de manières hyper intelligentes de l'amener, notamment à des PME ou des ETI qui considèrent que c'est pas trop pour elles. Mais du coup, moi, je suis plutôt dans cette perspective-là, en fait. Et effectivement, après, le fait de se dire, si j'arrive à démontrer très vite la valeur, alors peut-être que ils se mettront eux-mêmes dans cette idée que ça a de la valeur, quoi. Et donc, à ouvrir un peu à peu leur cerveau, parce que on peut pas demander à tout le monde de faire de la veille, on peut pas demander à tout le monde d'élaborer un point de vue sur les tendances qui sont en train d'émerger. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait cette conversation de manière régulière sur ce qui est en train de changer autour de nous. Est-ce qu'on n'est pas en train de louper quelque chose et quel est le comment est-ce qu'on doit se être malléable en fait dans cette ère-là quoi. Et voilà, pour moi, il y a aussi cette idée-là un petit peu derrière la tête de me dire mais comment est-ce qu'on peut rendre aussi cette matière accessible aussi à d'autres ouais. marchés quoi.
Et tu leur dirais quoi justement s'il y avait des patrons de TI, de PME qui étaient qui regardent ce podcast pour leur montrer la valeur et l'importance de travailler sur ce travail de vraiment concrètement pour eux à quoi ça peut répondre comme besoin de faire ce travail-là.
Bah, je pense que, enfin, tu vois, pour le coup, moi, j'ai été assez bluffée par un club d'imprimeurs qui, donc, impression, papier. Déjà, bon, c'est vrai que ça éveille pas mal l'instinct là sur tous ces sujets où à la fois, voilà, on se dit, il y a une tendance quand même qui est plutôt défavorable, mais il y a peut-être aussi des narratifs de société qui peuvent être intéressant à réinvestir. Et leur logique, c'était d'avoir une réflexion en tant que filière, finalement, en tant que d'avoir une logique de coalition en disant, en tant que petites entreprises de ce secteur, on a besoin de se re-questionner sur ce à quoi sert le papier dans la société et comment est-ce qu'on a envie de le raconter. Et donc, je trouve que et c'est probablement ce genre de démarche qu'il faut mener pour des entreprises plus petites, donc plutôt des logiques de filière et donc là avec voilà des acteurs intermédiaires qui peuvent du coup coordonner les démarches. Mais à mon avis, il y a quand même cette réflexion à avoir sur son marché et sur l'évolution de son marché et du coup l'action qu'on peut avoir en tant que filière sur le futur de son marché. Qui est, à mon avis, fondamentale et qui concerne vraiment beaucoup de secteurs. Quoi. Mmh.
Non, puis il me semble que ça rentre dans les essentiels, dans tous les cas, d'une direction d'entreprise. Le fait de trouver son marché, OK, c'est une chose. Et après, quand tu as trouvé ton marché, bah, il faut que tu fasses en sorte de pouvoir continuellement en fait, t'adapter par rapport aux évolutions de ce marché. Donc, du coup, pour pouvoir t'adapter, tu es obligé de suivre un peu comment le marché bouge. Et le marché bouge beaucoup plus vite maintenant que ce qui pouvait bouger avant. Et donc, du coup, pour pouvoir faire ça, tu es obligé d'avoir d'autres types de pratiques que juste des analyses de marché, de benchmark ou quoi que ce soit. Tu as besoin de remonter sur des choses qui sont un peu plus de l'ordre des évolutions sociétales, les signaux faibles, des tendances, de toutes ces choses-là. Quoi. Donc, ça me paraît vraiment pertinent, en tout cas, d'intégrer en connexion le côté anticipation de marché avec la brique de penser un peu les futurs. Ben, c'est en effet une réponse à ça, quoi.
Complètement.
Et comme tu dis, derrière, ça permet de pouvoir faire une. Fait de faciliter ça pour eux, le travail d'analyse, de veille, qui n'est pas forcément dans les habitudes, en effet, de beaucoup de monde. Ça permet d'aller plus vite sur des preuves d'efficacité. Et donc, est-ce que toi, tu arrives à connecter le travail que tu fais avec un suivi, par exemple, je ne sais pas, à plus un, plus deux ans, pour voir comment est-ce que l'entreprise s'est servie de ça, pour se réorienter plus ou moins. Toi, je caricature avec ce qu'on disait sur le marché, mais il y a un marché, l'entreprise a son marché, on a prospectivé que ça devait évoluer à peu près comme ça, et donc, du coup, nous, il faudrait qu'on prenne plutôt cette tendance-là. Donc, on redéfinit un peu les stratégies, hop, on les prend un petit peu, puis à plus de deux ans, on regarde et on se rend compte qu'en effet, le marché a évolué un peu comme on l'avait vu, et qu'on est en train de taper juste. Tu vois, est-ce que tu arrives à avoir des preuves comme ça qui vont jusqu'au bout? Parce que ça me paraît très génial.
Ouais, c'est génial, effectivement. Je pense que je n'ai pas encore assez de recul. Mmh. Et puis, je pense qu'il y a aussi une espèce de nébuleuse aussi, tu vois, sur le processus de décision qui fait que, surtout en tant que prestataire externe, c'est toujours un peu difficile d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais carrément, ce serait trop intéressant. Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ton propre processus mental ou de fonctionnement pour faire ce travail de Parce que là, on a parlé de la finalité, d'utilité que ça peut avoir. Je pense que ça peut être intéressant de voir un peu qu'est-ce que c'est que ce processus. Tout à l'heure, j'entendais, tu parlais un peu du terme, tu disais un peu l'intuition ou un truc comme ça. Donc, je pense que c'est pas un processus qui est purement rationnel. Donc, ça aussi, je pense qu'il est intéressant de partager si tu peux nous ouvrir un peu la boîte noire.
Ouais, effectivement, moi je suis plutôt une intuitive, hein, donc voilà, les adeptes du data-driven vont pas aimer. En tout cas, alors moi, je fais énormément de veille au quotidien, donc pour moi c'est vraiment une pratique très régulière, notamment parce que j'ai ma newsletter qui m'incite, donc du coup j'ai une très grosse base de données de signaux faibles que je tag avec. Ce qui me semble émerger comme tendance, et voilà, c'est toujours dans la reformulation et dans la restructuration des tendances et des signaux faibles entre eux. La newsletter me permet vraiment de réfléchir en termes de, on va dire, de formalisation de point de vue. Donc, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine finalement, et comment est-ce que je peux le nommer? Parce que ça, c'est très difficile finalement dans l'exercice.
Tu es sur un process de capture d'informations, d'analyse et puis de tentative de synthèse qui est hebdomadaire. Toutes les semaines, du coup, tu arrives à produire une synthèse. Okay.
Ce qui me permet quand même d'élaborer une grosse base de données qui est toujours un socle en fait, de travail quand je vais aborder un sujet. Donc après, quand on va me solliciter sur un angle spécifique, effectivement, je vais repartir de mes angles un petit peu d'analyse qui amènent toujours en fait des nouveaux points de vue sur la question. C'est ça que je trouve intéressant parce qu'en fait, même s'ils sont, ils semblent un peu déconnectés en fait du sujet qu'on m'amène, il y a quasi systématiquement toujours des liens parce que soit on va parler de méga tendance, soit on va parler de changements en fait dans les modes de vie qui auront nécessairement en fait un impact d'une manière ou d'une autre sur le sujet en question. Donc ça c'est un espèce de processus un peu desk research. Et puis après j'aime bien aussi solliciter des experts sur des sujets, donc j'ai un peu mes experts chouchous sur plein de thématiques. Voilà, qui sont des gens qui peuvent m'aider aussi et m'orienter dans les recherches, dans les lectures, dans les études. Donc, c'est plutôt un travail aussi de synthèse, dans le sens où c'est plutôt aller chercher les concepts, les idées, les chiffres qui pourraient du coup dessiner une direction du changement. Donc ça, c'est un peu tout le processus analytique que je mets en place. Et mon objectif, c'est effectivement d'aboutir à des hypothèses de changement. Est-on en train de passer d'un monde haut, qui est l'état actuel des choses, à un monde où il y a quelque chose qui a changé, et du coup, de pointer du doigt des potentiels de rupture culturelle, surtout. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, parce que je pense que c'est un vecteur de changement très fort et qui est souvent sous les radars, en fait. Moi, je passe beaucoup de temps à essayer de détecter ça. Une rupture culturelle, ça peut être, je pense, notre rapport à la réalité. Voilà, c'est une très belle rupture culturelle. Je pense qu'on est en train de vivre. Peut-être aussi une rupture culturelle par rapport à la notion de sécurité. J'aime bien aussi ça. En tout cas, ça attire beaucoup mon regard, en fait, dans quelle mesure le changement climatique va probablement changer notre rapport à la sécurité dans la maison. Ce sera pas probablement la sécurité par rapport aux autres ou par rapport, tel qu'on peut l'entendre dans une version Darmanin, mais plus dans une version peut-être plus sauvage. Voilà. Comment est-ce qu'on vit dans un environnement naturel qui peut ne pas toujours être maîtrisé et contrôlé? Comment est-ce qu'on fait pour maîtriser son accès aux ressources? Finalement, une notion de sécurité qui revient aussi un peu sur le bas de la pyramide de Maslow, par exemple. Voilà, j'en ai plein. Et voilà, ça, c'est des manières pour moi d'essayer d'éclairer en fait des nouvelles pistes et des changements possibles qui pourraient s'opérer. Et donc, à partir de là, c'est ces éléments-là qui me permettent de passer en traduction, en fait, fictionnelle. Et donc, là, comme tu le disais assez justement avant, l'objectif pour moi, c'est de trouver le bon conteneur, le bon réceptacle du changement qui va parler, en fait, aux gens à qui je vais m'adresser. Donc, peut-être que pour des profils designers, ça va peut-être être un service. Pour des profils comité de direction, ça va peut-être être un concurrent. Amener voilà, un concept de concurrent. Pour des séminaires d'équipe, la fiche de poste, c'est un très bon outil pour parler compétences, trajectoires, organisation, mission. C'est un peu cette alchimie-là après qu'il faut trouver pour à la fois faire ressortir les hypothèses de changement de manière pertinente, mais surtout dans un bon container pour que ça suscite la bonne conversation après.
Super. Et donc, quant à la conversation, après, j'imagine que toi, tu as la responsabilité aussi de capter tous les éléments de cette conversation pour leur retransmettre une synthèse des échanges avec une priorisation de ce qui a émergé.
Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien du coup classifier ça en consensus et dissensus. Qu'est-ce qui nous rassemble qu'est-ce qui est fédérateur en termes de vision et de perception du futur? Et puis, qu'est-ce qui nous met pas d'accord, en fait? Et c'est aussi un élément qui est intéressant à formaliser parce qu'il y a des zones où on n'est pas d'accord et c'est pourtant important de se mettre d'accord. Donc, du coup, voilà, c'est aussi cette cartographie-là, en fait, de la perception du futur qui, pour moi, du coup, permet d'éclairer un peu des axes à la fois de stratégie, mais aussi de feuille de route et de poursuite, en fait, des travaux de focus équipe.
Et après, ta responsabilité ou ton engagement s'arrête à ce moment-là, quand tu leur as donné ce livrable-là, ou est-ce que tu vas revenir derrière pour faire justement du suivi, savoir s'ils ont réagi par rapport à ça, savoir si ça a un impact dans le processus de décision, si ça a changé des choses dans l'entreprise, ou ça, c'est pas ta partie?
Très souvent, ça s'arrête là. La demande est plutôt très focalisée et en même temps, mon savoir-faire aussi, donc plutôt sur cette partie-là.
D'accord. Non, parce que moi, je rebondis là-dessus parce que je trouve ça super intéressant comme ça crée un point de départ qui est génial parce que justement, les choses sur lesquelles les gens sont tombés d'accord et qui rentrent dans ce qu'ils ont réellement envie de faire, ben, du coup, ça peut se synthétiser sous forme de stratégie. Ensuite, après, les stratégies, elles vont être à piloter, à faire redescendre en plan d'action, à suivre que ça va vraiment dans cette direction-là. Donc, ça, c'est super intéressant. Et puis, les points où il y a des dissonances, ben, ça donne des débuts de chantier super intéressants sur tout un travail potentiellement relationnel, un travail de redéfinition un peu plus profond de l'entreprise, peut-être même un travail de vision qui doit être retravaillé aussi. Enfin, c'est très intéressant, quoi. Ça donne des points. Tu crées des points d'entrée qui sont vraiment intéressants pour la suite du processus, quoi.
Et inversement, tu vois, j'aimerais bien, mais c'est un truc que j'ai pas encore fait, mais j'en ai discuté avec plusieurs personnes là récemment, d'avoir des espèces de stress test, en fait, de stratégie, de raison d'être, de se dire, ben finalement, est-ce que ce qu'on est en train de construire est résilient vis-à-vis d'hypothèses de changement possibles. Et je pense que c'est aussi c'est une articulation qui peut être aussi intéressante pour finalement. Et s'il se passait ça, qu'est-ce que deviendrait notre raison d'être? Est-ce qu'elle nous servirait toujours ou est-ce qu'elle n'aurait pas de sens? Et finalement, de raisonner un peu aussi de l'autre côté en se disant ce qu'on produit et la manière dont on fixe le cap, comment est-ce qu'elle s'inscrirait dans les futurs possibles. Et ça, je trouve que je pense qu'il y a un truc qui peut être aussi intéressant à mobiliser dans ce sens-là aussi.
Et du coup, est-ce que ça interviendrait, par exemple, au même moment qu'un processus d'entreprise qui basculera en entreprise à mission, par exemple, qui aurait besoin de travailler sur sa raison d'être? Ou est-ce que ça arriverait juste après, comme tu dis, pour un stress test? Donc, en gros, ils font le travail, ils arrivent à poser un petit peu vision, raison d'être. Hop, on met un stress test là-dessus en disant, est-ce que vous avez pensé à ça, comme signaux potentiels? on évalue si jamais ça tient la route ou pas, et après, on peut faire un retravail sur l'écriture, cette raison d'être.
Bah, je pense que ça peut intervenir à plein de moments. Après, je suis aussi dans cette économie de moyens, et tu vois, je pense que ce stress test, ça peut être un bon moyen aussi de sensibiliser en fait à des hypothèses de changement, tout en essayant du coup de passer un peu au tamis de ça, la raison d'être, de se préparer aussi à des hypothèses de changement qui semble probable, et voilà, pour lequel on se dit, est-ce que ce pourquoi on a défini cette raison d'être qui peut-être nous permettra de pivoter demain, est-ce qu'elle jouera ce rôle en fait dans ce contexte-là, est-ce qu'elle nous permettra de garder un cap et l'étoile du Nord, enfin voilà, je trouve que c'est une manière simple en fait d'introduire aussi le concept d'anticipation, de prospective et de futur dans des processus comme ça.
Oui, et puis en termes d'optimisation de moyens, je te rejoins, c'est intéressant de pouvoir le mettre au bon endroit, au bon moment, pour pas. Parce que j'imaginais que si jamais, par exemple, ça se faisait après un travail de raison d'être qui a déjà été validé, là, on n'est pas du tout dans cette optimisation parce que potentiellement, ça aurait dû arriver avant, parce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas la perspective, en fait, justement, sur le futur. Et que donc, du coup, ils n'avaient pas tous les paramètres pour vraiment bien travailler sur la raison d'être. Ils l'ont peut-être fait trop avec des intentions du présent et avec les paramètres des gens qui étaient autour de la table sans considérer le contexte. Donc, ce que ça me fait émerger, c'est le côté, en tout cas, si on faisait l'exemple sur une entreprise qui souhaiterait devenir entreprise à mission, quand il y a un travail sur la raison d'être ou sur la vision, c'est d'avoir en effet les parties prenantes qui sont autour de la table, bien entendu prendre l'historique de l'entreprise et en même temps ne pas oublier le contexte de l'évolution sociétale. Et donc là-dessus, avoir une lecture de là où on en est dans le présent, mais aussi une lecture de là où ça pourrait aller dans le futur. Et de mettre tout ça dans la popote pour pouvoir faire le bon travail d'écriture de la raison d'être. Mais c'est vrai que peut-être que... En tout cas, j'ai vu plusieurs cas, moi, de travail de réécriture de raison d'être où il n'y avait en effet pas le paramètre futur qui avait été intégré. Et que donc, du coup, la raison d'être était à risque d'être... non pas une raison d'être long terme, mais très court terme, quoi.
Je comprends.
J'avais une petite question spécifique sur vu que tu fais de la veille régulière, question un peu geek, hein, mais vu que tu fais de la veille régulière et que du coup tu captes énormément d'informations, que tu dois l'organiser, la structurer pour pouvoir derrière la synthétiser et même encore mieux à la fin de la fin arriver à en créer des objets qui sont extraits de cette synthèse pour pouvoir faire réagir les gens dessus, tu utilises quoi comme outil numérique ou autre pour tout ton travail?
Alors pour capter les signaux faibles, alors moi je suis très c'est Notion, donc voilà, j'ai un petit plugin qui permet de bookmarker chaque page dans Notion. Donc j'ai une grosse base de données Notion dans laquelle j'ai une colonne de tags, et c'est surtout c'est un peu cette colonne là de tags qui est un peu le nerf de la guerre, puisque du coup il faut arriver à bien nommer les choses pour pouvoir les retrouver et les remobiliser au bon moment. Donc voilà, c'est assez simple hein, en fait dans le fonctionnement.
Ok. Et tu segmentes comment justement un peu toutes les informations que tu captes? Tu parlais de rupture, tu parlais de... Tu vois, c'est quoi les catégories un petit peu? Je trouve que ça serait intéressant, ça permet d'éclairer un peu sur comment est-ce qu'on observe justement des futurs.
Ouais. En fait, pour moi, il y a les signaux faibles, donc qui sont vraiment des choses. Si tu les prends une par une, en fait, ça n'a pas forcément d'intérêt ou de sens. Mais c'est quand tu les mets côte à côte ou que tu les mets en réseau que tu vas commencer à identifier une possible hypothèse de changement, parce qu'en fait, tu commences à trouver un schéma qui est assez récurrent. L'idée c'est de passer du signal faible à l'hypothèse de changement, et donc c'est ça que je mets dans mon tag finalement, cette hypothèse de changement, qui est toujours un travail aussi de reformulation, parce qu'en fait au fur et à mesure qu'on trouve des informations, des signaux, le concept ou le principe va aussi se s'affiner. Donc là on est dans ce qui est de l'ordre finalement du pas forcément très probable, mais de ce qui dessine une direction qui pourrait tout de même advenir, parce que y a une part d'intuition aussi là-dedans qui fait dire que ça c'est un narratif émergent, mais qui pourrait potentiellement à terme, demain avoir une place plus importante dans la société, et pourquoi pas devenir un narratif dominant. Donc ça, c'est un peu l'enjeu, en fait, et les questions à se poser sur l'hypothèse de changement. Et puis après, bah, il y a toutes les méga tendances. Donc là, on est vraiment dans des courbes qui sont déjà assez bien enclenchées. Donc là, c'est changement climatique, vieillissement de la population, urbanisation, même si on peut remettre un petit peu en question ce principe-là. En tout cas, c'est des grosses tendances qui semblent quand même très, très bien enclenchées, qui sont souvent soumises plutôt à, voilà, à des forces physiques. Les gens qui auront 80 ans en 2040, ils sont déjà nés. Donc, à moins qu'il y ait une catastrophe, a priori, ils seront toujours là. Mais voilà, du coup, c'est cette idée que c'est des mouvements déjà bien enclenchés qu'on observe au niveau mondial, voilà, pour lesquels il y a quand même une trame et une littérature qui permet de se dire que c'est des choses qui ont quand même des chances d'advenir, mais qui pour autant, moi les méga tendances, je les traite plus comme des éléphants noirs, parce que souvent en fait c'est pour reprendre une terminologie qu'a amené Thomas Gauthier, qui est professeur à l'EM Lyon. C'est finalement des éléments qui sont extrêmement importants, mais pour lesquels on est plutôt dans le déni. Donc du coup, bah, par exemple, le vieillissement de la population, enfin, changement climatique, voilà, on a bien enclenché le truc. Vieillissement de la population, ça reste encore un sujet sur lequel on a extrêmement de mal à se projeter. Et pourtant, les chiffres sont assez implacables. En 2030, on aura au moins 25% de la population active qui aura plus de 55 ans. 20 ou 25, enfin, en tout cas ce sera plus la partie qu'on peut mettre au placard ou en pré-retraite. Il va falloir des choses et prendre en compte les spécificités de cette partie des travailleurs, et pourtant voilà, c'est un sujet sur lequel on a du mal à bouger, quoi. Donc c'est plus des sujets en fait où là la nécessité, ça va être de concrétiser ce à quoi ça peut ressembler, plus que de prouver en fait que ça va vraiment se passer. Et donc là, on est presque dans le champ. Moi, j'aime bien parce que c'est presque le champ de l'innovation sociale. En fait, on va essayer déjà de soumettre quelques pistes ou quelques idées en croisant plusieurs éléments de changement, mais de se dire, bah, en fait, pendant ces là, il va falloir faire des choses. Voilà des idées, voilà des directions possibles. À vous de vous saisir aussi de cet enjeu-là, parce que ben voilà, dans les 5 prochaines années, vous allez y être confronté assez directement.
Je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait qu'il y a de l'intuition là-dedans. Comment tu arrives à bien balancer le côté très raisonné, d'aller capter des sources, d'avoir de la data, de discuter avec des experts, comme tu disais, pour pouvoir avoir vraiment des choses qui sont logiques d'une certaine manière? Et puis de toute cette analyse, cette captation et cette donnée, forcément, tu as des choses qui émergent à l'intérieur de toi qui sont là pour le coup pas rationnelles, mais purement intuitives. Comment est-ce que tu arrives à équilibrer les deux? Parce que, par exemple, moi, ça me paraît des fois difficile. Quand j'ai des vraies impulsions fortes, ça me prend et je me dis, OK, bah là, il y a un truc. Et en même temps, je sens toujours le besoin de me dire, bah, si jamais je travaille sur ça, il va falloir que ça soit un petit peu backé par de la data. Donc, il va falloir que j'aille capter des choses pour valider ça. Quelle liberté, toi, tu te laisses par rapport à ton intuition? Enfin, voilà, tu vois, cet équilibre.
Bah, t'as d'autant plus raison que, enfin, souvent, ces hypothèses, il va falloir que je les translate dans un univers de fiction avec une part de créativité. Et alors, je sais, moi, la créativité, elle vient pas si je suis pas convaincue, quoi. Enfin, c'est difficile, en tout cas, pour moi, de passer l'étape, en fait, de la fictionnalisation si j'ai pas, voilà, si je me dis pas qu'il y a quand même quelque chose Et donc, de manière, enfin, j'assume plutôt de donner un point de vue plutôt que et qui sera pas exhaustif et qui n'est pas, voilà, une analyse complète et un mapping. Enfin, c'est clairement pas de cet ordre-là ce que je propose. Pour moi, c'est important en fait d'avoir une base analytique solide, mais du coup de travailler sur des hypothèses de changement qui, pour moi, relèvent quand même de la conviction. Et après, tout ça, c'est à discuter aussi avec le client et à ajuster. Mais dans le cheminement, je suis plutôt à prendre ce parti-là. mais voilà, qui est aussi une itération avec le client.
Oui, ça rentre dans la discussion. Au final, c'est aussi un peu la personnalité avec laquelle tu travailles qui choisit, quoi. Si d'un côté, il veut vraiment une démarche scientifique, très carrée, un peu froide, ou si du coup, il veut aussi, toi, de ta propre expérience singulière, de tes propres sentiments par rapport au fait que tu es dans ce processus-là quasiment tous les jours. Et du coup, après, vous arrivez à balancer ensemble et vous faites le choix le plus juste par rapport à...
En fait, moi, en général, je propose énormément de pistes et on choisit parmi tout ce que je peux, tout ce que j'ai pu identifier. On essaie de réduire pour du coup se dire, voilà, on a ouvert un champ des possibles. Voilà, c'est peut-être une manière, je sais pas, de faire. Mais
Et tu parlais des convictions personnelles. Est-ce que tu arrives aussi à ne pas mettre de tes envies futures personnelles dans le travail que tu produis. Ça me paraît super difficile à chaque fois aussi, tu vois.
Je pense que quelque part, ça transpire toujours d'une manière ou d'une autre. Mmh. Moi, j'ai du mal à me dire que la prospective n'est pas normative. Enfin, en tout cas, telle que je la pratique, il y a quand même... Et de toute façon, on propose des choses. Il y a toujours un parti pris. Il y a toujours. C'est jamais neutre. C'est justement ça. Je pense que la différence entre le fait de faire de produire des scénarios et le passage en fait à un univers fictionnel, je pense qu'elle nous fait basculer en fait d'une discipline qui est neutre à une discipline qui devient subjective et qui propose des visions du monde. Voilà, moi je pense que ça fait partie aussi de ce qu'on amène avec nous. Et voilà, après, c'est un sujet compliqué de trouver le bon milieu et le bon équilibre. Et je pense que ça s'obtient aussi, je pense, en préparant bien aussi. Avec le client pour voilà pas tomber non plus dans complètement à côté en termes de rester approché quoi.
Non, puis j'imagine que ça fait un travail toi étant dans ce processus là au quotidien tu as des espèces de mouvements intérieurs qui doivent se passer tous les jours tu vois parce que je te donne un exemple mais imaginons il y aurait une personne qui fait du travail de prospective qui est plutôt sur une envie technosolutionniste, tu vois, qui voudrait être dans un espèce de... Il rejoint un petit peu la catégorie du grand délire transhumaniste, dématérialisé, toutes ces choses-là. Et puis à côté, une autre personne qui fait le même métier, mais qui lui est plutôt sur un retour à la nature. Je caricature avec les deux grandes catégories. Du coup, forcément, quand tu vas faire un travail et que tu vas proposer ce travail-là, et que tu essayes justement de calibrer bien par rapport à l'entreprise ou l'institution, au territoire avec lequel tu travailles... Tu sais forcément que tu vas induire des choses à l'intérieur par rapport à tes propres biais. Et donc, du coup, tu es obligé d'en être conscient si tu as des biais ou si tu n'as pas des biais pour ne pas trop les mettre. Enfin, tu vois, il y a toujours ce travail, j'imagine, un petit peu de conscience, en fait, sur ce que tu fais qui doit être demandant, quoi.
Oui, c'est vrai. Mais je dois dire que de plus en plus, ça fait partie du brief. Moi, j'ai l'impression que ça commence aussi à remonter de plus en plus dans la question qui est posée. Elle implique en fait déjà une conception ou une vision du monde, parce que parfois j'ai des briefs qui sont très orientés sur la technologie et puis d'autres sur le changement climatique, voilà, de manière très caricaturale aussi, mais je pense que c'est aussi et quelque part dans la problématique telle qu'elle est amenée, il y a aussi une part d'angle mort et il y a aussi toute une part d'hypothèse. Donc on essaie aussi de composer avec ça en se disant à la fois qu'est-ce qu'il faut amener de nouveau et est-ce que je suis pas hors sujet si j'amène certaines perspectives qui viennent peut-être un peu chahuter aussi la question de départ. Mais en même temps, pour moi, c'est parfois ça relève aussi de la faute professionnelle de pas le faire. Donc, faut arriver à jauger ça. Et en même temps, oui, comment est-ce qu'on va pas trop, on pousse pas trop non plus l'hypothèse ou la vision du client pour aussi amener d'autres possibles et finalement pas retomber dans l'écueil en fait de la vision linéaire du business as usual qui serait finalement translatée à ma vision du monde que je suis en train d'opérer et de changer, c'est celle-ci qui va advenir. Donc c'est sûr que c'est toujours un il y a un vrai sujet, je pense, de modèle mental en fait derrière tout ça et qui est voilà qui faut manier. Enfin voilà, je pense que c'est toujours un peu délicat. Il faut toujours y aller aussi, je pense, avec une conscience quoi pour effectivement savoir ce qu'on amène, ce que le client amène et puis où est-ce de manière objective où est-ce qu'on a envie d'aller, où est-ce qu'on a envie d'amener la démarche pour que du coup bah voilà ils mettent ce qu'il faut. En termes de conviction, mais aussi en termes d'analyse. Tu as raison.
En termes d'expertise avec lesquelles tu coopères régulièrement, comme tu disais, est-ce que tu as justement des profils plutôt anthropologues, psychologues, sociologues, tu vois, ces expertises-là ?
Alors moi, je m'adresse surtout à des experts sectoriels parce que c'est ça que je trouve... Enfin, c'est ça qui peut me manquer, en fait. C'est la profondeur sur certains sujets. Finalement, de savoir où en sont les gens, des réflexions, c'est quoi les questions qu'on se pose, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les buzzwords du moment, pour aussi bien comprendre, en fait, le... Typiquement sur le travail, moi je m'entoure vraiment de gens assez différents sur le sujet pour aussi avoir des perspectives très différentes parce que le sujet il est très complexe et en fonction de là où on le prend, de la population à laquelle on pense quand on travaille et qu'on projette, on n'a pas forcément les mêmes insights et les mêmes réflexions. Donc je vais plutôt travailler avec des experts sectoriels, ce qui m'apporte vraiment beaucoup. Dans cette finalement dans la finesse de l'analyse et dans la compréhension de là où on est le secteur pour pas non plus tomber complètement à côté
Ok, très clair. Non, ma question sur les expertises plus psychologiques ou anthropologiques, c'était peut-être plus sur comme tu disais en fait au bout d'un moment quand tu croises tes analyses tu vois des patterns en fait qui se répètent, mais du coup c'est des patterns qui sont peut-être aussi répétés dans le temps et dans les sociétés. Et du coup, j'ai une amie anthropologue qui me parle toujours des cycles de 40 ans, que tous les 40 ans, en fait, il y a les mêmes cycles qui se reproduisent sous des formes différentes, mais en fin de compte, c'est à peu près la même chose. Notamment avec un bouquin qu'elle a écrit, elle s'appelle Fanny Paris, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Les enfants gâtés. Je ne sais pas si ça te parle. Et Bon, bref, et du coup, dans son livre, c'est le côté... y a une grosse tendance autour d'écologie. Y a beaucoup de gens qui vont s'afficher à dire je prends plutôt le train maintenant que plutôt l'avion, mobilité douce, tout ça, mais qui vont bien l'afficher sur des réseaux comme LinkedIn parce qu'en fait, on est juste dans le même fonctionnement qu'avant, qui est de trouver des attributs sociaux qui nous permettent de nous placer dans une forme de hiérarchie sociale par rapport aux autres, et que les attributs ont changé, mais que le processus de classification et de caste sociale en fait est le même. Et que donc en fait on reproduit la même chose, et donc en termes de prospective, je trouve que c'est intéressant, c'est que tu peux voir des tendances en fait qui sont en train d'amener sur exactement la même structuration de la société et les mêmes problèmes, les mêmes biais, mais avec d'autres attributs par-dessus quoi. Et je pense que
complètement. Non, c'est hyper intéressant. Et puis de toute façon, il y a dans la prospective, il y a aussi toute une dimension de rétrospective pour savoir ce qui s'est passé avant et de le mettre en lien dans le temps. Et effectivement, je pense que l'anthropologie, ça apporte énormément comme grille de lecture, carrément.
Pour finir, il va nous rester, on va dire, 5 minutes. Est-ce que tu voudrais nous improviser ou nous partager un peu à l'heure d'aujourd'hui, là, maintenant, dans le présent, ce que toi, de tes observations, tu vois un peu comme signaux faibles ou tendances plutôt fortes, des éléments du futur que tu auras envie de nous partager?
Ouais, bah moi, il y a plusieurs trucs qui m'intéressent beaucoup, qui m'interpellent beaucoup en ce moment. Je pense au rapport à l'âge, notamment. Parce qu'effectivement, ça me paraît intéressant, en fait, de voir qu'effectivement, quand on parle vieillissement de la population, mais en fait, notre rapport à l'âge, il est aussi en train de changer avec un découplage de l'âge chronologique et de l'âge biologique. En gros, on a plus l'air aussi vieux que ça à 60 ou 70 ans, parce que physiquement, on est mieux, on est bien, on prend soin de soi. Et cette idée, finalement, que la société vieillissante, ça ne veut pas dire forcément plus de gens vieux dans l'imaginaire tel qu'on l'a, je trouve que ça, c'est hyper intéressant. C'est aussi se dire qu'on va travailler de plus en plus longtemps et qu'on va être de plus en plus nombreux à être dans cette tranche d'âge. Donc ça, je crois que c'est aussi un grand changement de paradigme, je pense, pour le monde du travail, tout en prenant en compte cette notion de se dire, bah, en fait, on sera peut-être pas non plus les vieux d'aujourd'hui, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, pardon, je veux pas... on vieillira probablement pas de la même manière, et ça, je trouve que ça ouvre une nouvelle manière, en fait, de penser le vieillissement de la population. Et je le mets aussi souvent en lien avec la natalité. Finalement, on fait de moins en moins d'enfants. Les courbes, elles se dessinent quand même assez nettement sur le sujet. Et on a déjà atteint, en fait, le peak child. Donc, c'est le moment où, en fait, le nombre d'enfants arrête d'augmenter. Donc, on est dans cette tension de la société où, en fait, on voit que la part d'enfants est en train de diminuer. Donc, on peut se demander aussi quelle place on va donner aux enfants dans la société de demain, quelle place on va imaginer pour eux. Donc, ça, c'est un premier volet que je trouve hyper intéressant. Après, je t'évoquais tout à l'heure le sujet de la sécurité, en tout cas la valeur de la sécurité qui, à mon avis, va vraiment être cardinale, en fait, dans nos choix de vie et dans nos modes de vie. La manière dont on habite, notamment. Aujourd'hui, la valeur principale, je pense que c'est à peu près c'est le confort. On recherche le confort et il y a une rupture culturelle, je pense, qui est en train de s'opérer autour de la notion de confort qui va de plus en plus translater vers cette valeur de sécurité. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça voudra dire sur la manière dont on habite demain ? Je regarde particulièrement sur ces sujets un courant architectural qui s'appelle Design with Disaster. Donc, comment est-ce qu'on conçoit les habitations, les villes, en prenant en compte la perspective de la catastrophe naturelle, pour qu'elle soit construite by design dans la manière de concevoir les lieux de vie. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un changement de pensée qui est extrêmement intéressant et qui ouvre des leviers de conception très différents. Et puis si je devais en citer un troisième, je pense qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est le rapport à la consommation, le narratif qu'on se raconte autour de la consommation, qui est en train de, je pense, évoluer de manière assez intéressante. Et ce que je vois encore, qui est de l'ordre du signal faible, mais qui m'interpelle pas mal, c'est finalement la place qu'on donne à l'effort et à la friction dans les parcours utilisateurs, dans les parcours d'achat. Et de se dire que peut-être qu'on a atteint, que tu parlais de cycle, la fin du cycle de l'expérience client sans couture, l'achat doit être facile, simple, rapide, fluide. Et finalement, tous ces modèles d'expérience client, est-ce qu'ils vont dans le bon sens de la société ? Et je pense qu'on va avoir une déconstruction un peu de cette pensée-là pour aller vers des parcours clients, des parcours d'achat, des expériences de consommation qui remettent peut-être davantage de place à la friction, à l'effort, à la réflexion, à l'implication. J'aime beaucoup, il y a un café japonais qui est dédié aux écrivains. Et en fait, ils ne te laissent pas partir tant que tu n'as pas fini ton objectif d'écriture de la journée. Et je trouve ça assez génial. Et en fait, je pense qu'il va y avoir des retournements de propositions de valeur de cet ordre-là, en se disant finalement, ce n'est pas en rendant tout plus facile qu'on permet aux gens d'atteindre leur job to be done. Et donc finalement, comment est-ce qu'on peut renverser cette perspective et créer des expériences nouvelles autour de ça.
comment est-ce que l'effort, au final, peut être considéré comme étant quelque chose d'agréable et de souhaitable plutôt que quelque chose qu'il faut absolument enlever de nos expériences.
C'est ça.
Quoi. Intéressant comme retournement, ouais, carrément. Deux dernières questions. Une, c'est sur le passé et une, c'est sur le futur. La première sur le passé, c'est juste, forcément, tu es passionné de ce travail, de penser le futur, d'imaginer, de détecter, d'anticiper. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Je ne sais pas si ça a commencé très jeune ou pas. Et après, la deuxième, ça sera sur le futur, c'est plus concret, c'est savoir si toi, par exemple, tu as des projets en cours que tu as envie de partager ou des choses que tu as envie d'annoncer par rapport à ton travail que tu es en train de réaliser.
Alors, comment je suis arrivée là? En fait, moi, j'ai commencé à travailler dans des équipes d'innovation, donc orientées produits, services, plutôt comment est-ce qu'on fait pour renouveler le business model qui repose en partie sur des produits, des services ou des manières de faire qui sont en danger en fait à moyen terme, mais plutôt dans une perspective assez court-termiste. Donc plutôt sur des feuilles de route à 6 mois. Et en fait, ça me frustrait pas mal quand même de pas arriver à faire rentrer dedans la dimension comportementale, la dimension sociétale, d'évolution en fait qui s'opérait autour de ces innovations. Et j'arrivais pas en fait à trouver cette partie-là en fait dans la définition de nouveaux business. Et donc, c'est un peu comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis peu à peu éloignée, on va dire, de l'enjeu à 6 mois pour me dire, en fait, c'est quoi les émergences qui pourront nourrir, du coup, les feuilles de route et les stratégies et qui, du coup, opèrent des innovations, mais qui sont peut-être pas que des innovations produits ou services, mais qui sont aussi des innovations en termes de vision, de stratégie. C'est un peu ça mon cheminement et j'ai toujours été très attirée par les émergences, par le nouveau, par qu'est-ce qui est en train de changer. Mais j'ai mis longtemps en fait à trouver la manière en fait de positionner en fait mon regard et mon champ d'action. Et là j'aime assez en fait l'endroit où je suis. Et concernant ta deuxième question, donc, qui est sur les projets futurs, un peu les hypothèses de changement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un peu mes grands sujets d'observation, je pense, pour 2024. La consommation à friction, le vieillissement de la population active, notamment, et le rapport à l'âge, habiter à l'ère du changement climatique, et travailler aussi à l'ère du changement climatique. Je trouve que c'est vraiment un sujet qui est hyper intéressant et comment est-ce que ça change les métiers. Donc ça, c'est vraiment, ça va être mes zones d'observation privilégiées pour le début de l'année, même si je sais que ça évolue, tout évolue très vite. Donc probablement, j'en aurai des nouvelles très vite aussi.
Super. Donc du coup, ta newsletter à suivre si on veut suivre tous ces travaux et toutes ces recherches. Est-ce que tu organises des événements de temps en temps ou d'autres types de formats pour partager ton travail ou tu participes
J'espère... J'espère faire. Alors, ce sera à La Rochelle. Donc, pour ceux qui veulent venir, j'espère faire un événement là au premier semestre. Ouais.
Ok, très cool. Plutôt de partage ou de discussion.
Ouais, peut-être mode. Enfin, faut que je vois ce que j'arrive à organiser, mais j'aimerais bien quelque chose plutôt un table ronde conférence parce que c'est vrai que. Ça, je trouve que ça peut manquer un peu là où je suis et ça peut aussi amener des nouvelles perspectives et voilà et puis du coup faire rencontrer aussi plein d'acteurs je pense qui ont envie de s'ouvrir aussi à ces nouvelles manières de voir le futur quoi.
Trop bien, super, et écoute merci pour tous ces partages, c'était très intéressant et pour le coup très complémentaire avec les discussions que j'ai eues jusqu'à maintenant sur cette mini-série. Écoute, je te dis à bientôt et merci pour tous ces échanges.
Merci à toi pour toutes tes questions.